Bonjour. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2015 et nous sommes heureux de vous présenter l'émission Chronique Hebdo. Bonne écoute.
Oh, yeah. Chronique Hebdo. Chronique Hebdo sur Radio Libertaire. Eh bien, c'est juste un petit peu après 10h, un 22 janvier de l'an de grâce 2015, hein. Donc Radio Libertaire sur le 89.4 pour l'ensemble de l'Île-de-France et aussi évidemment sur internet, hein, où on nous entend beaucoup de personnes, d'auditeurs, grâce à cette merveilleuse machine internet, comme vous le savez, qui va bientôt être surveillée, enfin qui l'est déjà depuis longtemps, parce que n'oublions pas d'où ça vient, hein, c'est créé quand même par les militaires, tout ça, et eh bien vous êtes dans une émission sur Radio Libertaire qui s'appelle Chronique Hebdo, l'émission de commentaires de l'actualité avec le chat dans la gorge. Libertaire, j'espère, d'un point de vue le plus anarchiste possible. Comme je dis, on en a bien besoin. Vous le savez, ils en ont besoin. La société française en avait besoin. Elle était devenue Charlie, hein, elle était devenue Charlot. Et beaucoup de millions de gens qui n'avaient jamais foutu le nez dans un Charlie Hebdo, hein. Alors, petite remarque comme ça, je vous le dis, petite remarque comme ça. C'est assez étonnant, même j'ai lu des articles apparemment pour où des gens disaient on était Charlie, et moi le souvenir que j'avais c'est qu'on disait Charlie Hebdo, hein. Voilà, vous êtes sur Chronique Hebdo et pas sur Chronique, et donc c'est important. On pouvait voir ceux qui l'achetaient, ceux qui l'ont lu, puisque avec son précédent, vous savez, on l'a déjà rappelé, Harakiri Hebdo transformé en Charlie Hebdo, d'où ça venait le Charlie, c'était vraiment les bandes dessinées dans les années 70, hein, là aussi, il faut le savoir. Et puis, la transformation, vous le savez aussi, d'une période avec Monsieur Philippe Val, Ciné Hebdo, transformé en ciné mensuel. Donc, Charlie Hebdo, plus que Charlie. Et ça, c'est une petite chose que je pense fallait remarquer par rapport à cet engouement. Puisqu'ils sont en rupture de stock absolument partout, dans les maisons de la presse, les kiosques de gare, en fait, tout ça, les kiosques de rue, réapprovisionnés ou pas, enfin voilà, pour ce numéro historique, et peut-être un peu hystérique, hein, un petit peu hystérique quand même, pour les millions, puisque on en est à des tirages de 6-7 millions, enfin... Il faut juste, je voulais voir, j'ai regardé un tout petit peu, il y avait un dessin de Riss, hein, je vous l'avais déjà dit, dans Chronique Hebdo, il était venu il y a bien longtemps, Riss, du temps où nous étions du côté de Montmartre, et il suivait à l'époque le procès Papon avec un hors-série, donc Riss a été blessé, on l'a vu, il a fait une petite apparition assez sobre, hein, tout en délicatesse, je pense, par rapport à France 2, Monsieur Pujadas, hein, dans son 20h-20h30. Et j'ai regardé un dessin qu'il a essayé de réaliser malgré toutes ses blessures, et qu'il a réalisé dans le Charlie le dernier, hein, ce que vous pouvez pas trouver en kiosque ou dans les maisons de la presse, enfin certains l'ont déjà. Et il rappelait, enfin c'était assez intéressant, puisque 25 ans, il disait quand même il faut un peu de temps, hein, pour devenir un dessinateur. C'est ce que disait déjà Chaval, il disait je fais ce dessin-là deux, trois minutes, mais derrière il y a 30 ans de travail. Alors, travail, activité, choix, hein, c'est pas le travail subi, c'est pas le tripalium. Et donc pour Riss, il mettait 25 ans, et puis pour ces terroristes, il mettait 25 secondes pour tout bousiller, hein, 25 secondes pour tout bousiller. Déjà, certains l'avaient dit, hein, les constructeurs, les créateurs d'un côté, et puis notre ami Stirner qui parlait des créatures, hein, ne soyez pas des créatures, tout est fait pour que vous soyez des créatures, en particulier des créatures du bon Dieu, hein, de toutes ces boutiques religieuses, les créatures. Et pas les créateurs, on sait ce qu'ils peuvent faire, à part bousiller, ils savent pas faire grand-chose, c'est ce que soulignait justement de façon intéressante Rhys dans un dessin du Charlie Hebdo, que vous pouvez trouver ou pas trouver. Et alors, ce matin, donc, pour Chronique Hebdo, mission de commentaire de l'actualité, alors je vous le dis, puisque c'est la présentation de l'émission, donc à partir de 11h, nous recevrons Marie-Claire Calmu pour son ouvrage Chronique de la Flèche d'Or. Hein, ce sont des chroniques. Vous voyez, vous êtes dans Chronique Hebdo, mais Chronique écrite, quatrième volume, qui a été publié. L'éditeur, c'est Raphaël de Surtis. Alors, Marie-Claire Calmu, eh bien, des auditeurs ou des lecteurs du Monde Libertaire la connaissent, puisqu'elle écrit relativement souvent dans le Monde Libertaire. À ce sujet, vous pouvez découvrir ses textes, hein, allez sur Internet, le Monde Libertaire, et puis vous verrez les classements qui sont faits par rubrique et aussi les recherches par auteur. Donc aussi écrivain, chronique de la Flèche d'Or, écrivaine, on lui demandera, et puis beaucoup de peinture aussi, des tableaux, là aussi des créations justement picturales, et puis aussi eh bien du théâtre et des interprétations de ces textes et de ces chroniques justement dans un lieu qui s'appelait la Flèche d'Or. Alors vous en saurez plus si ça vous intéresse, je l'espère, eh bien à partir de 11h avec l'entretien que nous aurons avec Marie-Claire Calmu. Alors, pour ce qui concerne les chroniques hebdo, je voulais évoquer ce matin des thèmes, sortir un petit peu de tout ce que l'on entend. Vous me direz, il n'y a qu'à pas écouter, hein, mais vous êtes quand même dans une société où même si vous vous mettez quand même des bouchons dans les oreilles, si vous voulez fermer les yeux, eh bien, vous entendrez quand même les bruits et la fureur de ce monde. Hein, difficile d'y échapper. Alors, surtout pour les urbains que nous sommes, enfin pour les urbains, et vous savez, ça s'adresse aussi évidemment à des gens qui sont à la campagne, qui sont aussi en dehors des villes, puisque le projet merveilleux, c'est de faire habiter peut-être dans les années 2050, hein, la chance que vous aurez, la chance que certains auront, 10 milliards d'habitants sur la planète, 80% qui devraient habiter dans les villes. Dans les villes, comme regardez un petit peu, on a vu un peu ce qu'il y a de merveilleux, comme le Qatar. Hein. Le Qatar, c'est quand même quelque chose de splendide, de merveilleux. Donc d'habiter dans des tours, hein, pour certains qui ne voudront pas, et surtout ceux qui ne voulaient pas les construire, mais qui sont obligés. Et ça, c'est le monde, quel wonderful world, hein, world. Comme chantait Louis Armstrong, quel monde merveilleux. Donc ce matin, alors le monde merveilleux, je voulais vous leur parler un petit peu pour essayer de voir un peu autrement de tout ce que l'on peut entendre, hein, là avec cet affolement un peu général de la République affolée, enfin bon, l'Union sacrée, apparemment l'ensemble des politiciens et les différentes mesures contraintes qui sont en train de mettre en place. Hein. Donc, on vous l'avait dit, donc le régime sécuritaire va se déployer un petit peu partout. Je pense que Pôle emploi va se, grâce à des anciens flics, premiers flics de France, hein, comme Monsieur Sarkozy, eh bien le Pôle emploi va se transformer en Interpol emploi. Certainement, hein, aussi. Hein, là aussi, on va trouver du boulot. Dans le sécuritaire, on va trouver du boulot aussi chez les militaires. Hein, les militaires vont aussi recruter ou ne pas trop diminuer leurs effectifs. Donc le régime militaire, régime policier, va se développer avec évidemment le développement aussi de tous les services de l'État, les services d'écoute, les services secrets, des GSE, des CRI, enfin la liste extrêmement longue, des milliers et des milliers de personnes justement qui ont montré dernièrement leur efficacité. Alors justement, pour sortir un petit peu de tout ce climat quand même un peu oppressant, je voulais rappeler juste ce chiffre, hein, puisque Monsieur Valls a évoqué l'apartheid, hein, comme rappeler que l'apartheid en Afrique du Sud, ce que c'était les séparations, la ségrégation entre blancs et noirs. Et Monsieur Wauquiez, vous savez, celui qui avait parlé de cancer pour l'assistance, enfin rien que lui, il est là pour nuire, hein, comme on dit, il est là pour c'est sa fonction première en tant que député. Eh bien, justement, avait pour souci de s'en prendre à ce mot qu'il lui avait, il n'y a pas que lui, il y a l'autre prétendant à la couronne aussi, qui l'avait particulièrement choqué, qu'il avait consterné, et par rapport à ce mot apartheid, c'est-à-dire Monsieur Wauquiez disait l'apartheid, un racisme d'État, comme en Afrique du Sud, blanc et noir. Alors vous savez, donc, et il est absolument impossible que Monsieur Valls ait utilisé ce terme, employé ce terme d'apartheid. Alors, apartheid, oui. Est entièrement d'accord avec monsieur Valls, hein. Apartheid économique, apartheid social, apartheid, vous le savez, entre les dominants dominés, les exploiteurs et les exploités. C'est bien ce mot qui est à utiliser, mais certains évidemment y mettent pas les mêmes choses. Hein, c'est ce que veut mettre la droite ou l'extrême droite, évidemment, par ce refus de ce mot, hein, puisque se refuse évidemment de voir la séparation et la ségrégation sociale, la ségrégation économique. Je vous en parlerai de cet apartheid dans les prisons, hein, tel qu'il existe dans les prisons, puisqu'il y a ceux qui vont en prison, et puis il y a ceux qui n'y vont pas. Et ceux qui vont en prison, ils viennent de chez les pauvres, et ceux qui n'y vont pas, eh bien évidemment, ils viennent de chez les plus riches, ou, comme on peut l'employer ce terme-là, ceux qui font partie de la classe des exploiteurs. Pour ça, écoutez des émissions sur Radio Libertaire, hein, en particulier l'émission à 20h30, le mercredi, l'émission Ras les murs. Alors je vous parlerai de cet apartheid social, hein, à partir d'un ouvrage, enfin je voulais vous en parler rapidement, parce que j'aurai pas beaucoup de temps ce matin, un ouvrage de Didier Fassin, qui met au jour, enfin qui rappelle surtout les logiques sociales à l'œuvre dans le système carcéral, et rappelle argument à l'appui son échec, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ceux qui ont fait l'objet évidemment de toute l'attention des médias, qui avaient fait quand même des séjours dans la casse-prison pour plusieurs années, hein, sinon une dizaine d'années pour l'un. Et donc cet ouvrage, c'est une anthropologie de la condition carcérale, hein. Je voulais vous en parler puisque je vous parlais de ce thème de l'apartheid, et rapidement, donc je reviendrai sur cet ouvrage de Didier Fassin, hein. Et je voulais vous signaler cet apartheid aussi par rapport à ce que l'on projette en 2016, mais enfin c'est pas loin d'exister actuellement, c'est que 1% 1% de la population possède autant que 99% par rapport aux richesses. Hein. Alors voilà, et ceux qui ont confisqué le magot, qui ont confisqué le butin, 85% des familles, 85 familles, auraient autant que 3,5 milliards d'individus actuellement sur la planète. Vous voyez, à peu près la moitié de la population de l'ensemble de la Terre. Hein, donc, l'apartheid n'y est pas, hein, comme disent... Évidemment, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nuire jusqu'au bout. Hein, c'est cela. Donc, il n'y a rien à faire. Alors, en considérant que c'est une bande de crétins, je voulais aller voir ce matin un peu du côté des anthropologues ou des sociologues, hein, pour aérer un peu, évidemment, la merdiacratie moisie qui se répand un peu partout. Et je ne sais pas, on en parlera ce matin peut-être avec Marie-Claire Calmus, si pour ce qui est des journaux, pour ce qui est des quotidiens, pour ce qui est des revues, pour ce qui est des magazines, les événements récents ont fait que certains ont pris conscience, un peu plus conscience peut-être, de la misère, hein, de leur production, de leurs écrits dans l'ensemble de ces journaux évidemment soumis aux marchands de canons, hein, ces journaux qui sont des vulgates, comme je dis, du capitalisme, et qui en continu, puisque c'est les chaînes en continu, mais c'est la même chose pour le reste, eh bien distillent le catéchisme du capitalisme, hein, puisque nous sommes en pleine religion, le fait religieux, la laïcité. C'est vrai que la laïcité, on l'entend partout, plein de gens viennent sur des plateaux de télé, viennent dans des radios évoquer la laïcité, rappeler la laïcité. C'est le cas aussi du canard enchaîné d'hier. Mais en parlant, je vous l'ai déjà dit sur cette antenne, qu'il y a plusieurs religions qui peuvent en cacher beaucoup d'autres. Et celle-là, en particulier, la religion, comme je l'appelle, républicaine. Et quand je dis ça, vous savez bien que je parle de cette république confisquée, de cette république bourgeoise. Hein, on parlera peut-être au cours, avec Marie-Claire Calmus, peut-être de Jacques Rancière, qu'il avait déjà dit, hein, à partir du moment où il y avait eu l'élection du premier président de la République au suffrage universel, rien que ça, Napoléon III, il y avait eu confiscation de l'ensemble des pouvoirs à l'ensemble du peuple, l'ensemble de la population, des populations en tout cas, et donc à partir de ça, ça avait été confisqué, et ça n'a pas changé. Et donc de la même manière, il faut enseigner, hein, comme on dit dans les écoles de la République, cet système de démocratie avec ses institutions. Et là, pour le moment, on les entendrait en disant il faut redurcir ces institutions, il faut retourner à la source de ces institutions. Alors, à la source de quoi? À la source de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et donc, on nous parle que pour la liberté, avoir la liberté, la première chose, c'est la sécurité. Non, pour avoir la liberté, la première chose, c'est l'égalité réelle, l'égalité authentique et la justice. Comme l'avait dit Diderot, et tant qu'il n'y aura pas d'égalité économique, c'est pour ça que je vous ai parlé du 1%, du 99%, ce seront tout un tas d'une bande de diafoirustes qui viendront blablater, hein, sur l'ensemble des médias radio, puisqu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Et c'est pas parce qu'il y a eu un choc, comme on dit, un choc de l'histoire, que ça a provoqué dans les consciences, je pense, une mise à jour, ou tout du moins un peu plus de modestie dans le propos, et un peu plus peut-être de retrait. Hein. On parlera aussi de la nécessité de ce retrait, de la nécessité de s'arrêter un petit peu pour réfléchir. C'était, je vous le rappelle, hein, pour GB, l'an 01, c'est-à-dire on arrête tout et on réfléchit. Et là, ils arrêtent pas tout. Là, ils continuent de plus belle. Ils en rajoutent, ils en remettent des louches. Alors voilà, ça va être quand même un petit peu difficile. Et donc ce matin, je voulais vous parler de poésie, hein, et je voulais, en faisant un détour par, évidemment, l'écologie, je dis l'écologie aussi, et puis par la, et puis par, par aussi, l'anthropologie, avec Philippe Descola. Alors je vous rappelle, Philippe Descola, bon, si vous ne le savez pas, tout le monde ne le connaît pas, anthropologue, hein, et actuellement professeur au Collège de France et qui a été dans les années après 68, 70 et tout ça, allé faire un tour. Il a été faire un tour et y rester relativement longtemps en Amazonie avec les Indiens là-bas, à Chouar, à une population. Et donc il a vécu avec eux. Hein. Le mieux c'est ça, c'est pas fait du tourisme, hein. C'est pas fait un petit voyage et puis faire un petit tour et puis voilà et on revient. Et donc dans la continuité de Claude Lévi-Strauss, eh bien, il a fait ce séjour assez long hein, chez ce peuple d'Amazonie, les Achuars, et puis il a rédigé, réalisé deux bouquins, dont l'un s'appelle « Par-delà nature et culture », qui a été publié en 2005 chez Gallimard, et l'autre, le dernier, actuellement, hein, que vous pouvez trouver peut-être dans les librairies. Je ne sais pas, je vous ai pas encore parlé de Publicus, en 45 rue Amelot, mais peut-être qu'il le possède, ou on peut peut-être le commander là-bas, la composition des mondes de Philippe Descola, et donc entretien avec Pierre Charbonnier, ça c'est publié chez Flammarion. Alors le thème, eh bien c'est ça, c'est que les Indiens, donc à Chouar, montrent qu'une autre relation à la nature est possible, et pour l'anthropologue, cet anthropologue, Philippe Descola, il nous dit qu'il est temps de penser un monde qui n'exclut pas l'eau, l'air, les animaux, les plantes. Et pour ça, eh bien, je vous en parlerai, eh bien, il nous dit, eh bien, en ce qui concerne leur organisation, l'habitat pour ces populations d'Amazon est dispersé. Il n'y a pas à proprement parler de village, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'État, et pas de spécialiste des rituels. Alors, vous voyez, c'est intéressant, hein, parce qu'on reste toujours dans le modèle, hein, on est enfermé. Hein. De l'air, hein, il faut en avoir. Rester sur la tête, sur le guidon, hein, c'est ça, ou sur les crampons des chaussures de football, ou la même chose, évidemment, sur les écrans télévisuels, sur tous ces écrans, et qui racontent à peu près la même bouillie. Alors, l'intérêt, c'est celui-là, d'aller voir que d'autres possibilités, et puis aussi de faire une analyse avec cet anthropologue pour nous dire peut-être que notre civilisation, déjà, c'est un échec cuisant. Hein. Et donc, à l'intérieur même, de voir autrement, hein, c'est-à-dire que, vous savez, avec les anarchistes, puisque cette population-là qui vit actuellement, c'est pas une projection, ça existe, donc en Amazonie, eh bien, il y a, comme je vous le disais, pas de chef, pas d'État, pas de spécialiste des rituels, et ils ont l'air d'aller mieux, ils ont l'air d'aller bien, par rapport, évidemment, à la gueule des bipèdes que l'on peut rencontrer dans ces sociétés merdonnes. Voilà. Alors, les thèmes, eh bien, ce sera celui-là, hein, avec aussi, je vous l'ai dit, là je ferai un petit tour par, on en a déjà parlé, de Pierre Rabhi, paysan et essayiste qui s'émerveille toujours devant la splendeur de la nature et qui nous dit c'est difficile de le faire en ville puisque elle a disparu. Donc voilà un peu les thèmes, les sujets. Vous savez, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires à faire, et bien peut-être qu'on les abordera aussi, hein, dans la discussion avec à partir de 11h avec Marie-Claire Calmu. Voilà, je voulais alors aussi, on abordera si on a le temps, eh bien, à partir de deux ouvrages aussi, sur la faillite de la pensée managériale, hein, vous voyez, la faillite des sociétés merdonnes, le syndrome du poisson-lune, un manifeste d'anti-management, et là, eh bien, c'est le chapeau de ces deux ouvrages, le degré zéro de l'entreprise. Un sociologue et un autre patron désespéré, hein, qui parle de l'inculture des élites et qui parle du désert culturel dans l'entreprise. Hein. Dans l'entreprise, c'est pas étonnant. Alors voilà, c'est le modèle, hein, c'est le modèle pour les pour les études supérieures, hein, faut faire des grandes études supérieures, faut aller après dans des entreprises. Et dans les entreprises, je vous dirai peut-être tout à l'heure, je vous en avais déjà parlé, donc d'un film, hein, qui a été qui est passé sur la chaîne LCP, hein, la chaîne parlementaire. Eh bien, la France des grands patrons, c'était réalisé ce film par Laurent Jaoui, la France des grands patrons, et je pense que vous pouvez le voir. C'est des caricatures, hein, c'est sur 15 patrons, c'est des caricatures de caricatures, et comme Christophe de Margerie, hein, là il a été filmé juste avant son crash. Et il y a Madame Atomical, enfin l'Auvergeon. Il y a beaucoup de gens, vous savez, Monsieur Kessler aussi, de la CFDT au MERDEF. Hein. Et je vous disais ça tout à l'heure, puisque si vous avez la possibilité peut-être de voir ce film, c'est quelquefois enregistré sur YouTube ou sur Dailymotion, là, vous voyez, c'est deux, comment je prononce bien, et pour voir ça, puisque ça vaut le détour, et là, ça rejoint ce que je vous disais, sur le degré zéro de l'entreprise, et quand on voit ces 15 crétins, ces 15 clowns, hein, évidemment, mais avec les conséquences que ça peut avoir, on a envie d'aller un petit peu respirer, ce que je vous proposais ce matin, avec ces ouvrages, hein, en particulier, aller un petit tour en Amazonie, et puis aussi, en restant ici, en allant du côté en Ardèche, avec un poète paysan. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, numéro du studio 01 43 71 89 40.
On a retrouvé dans le caniveau les pages jaunies de Victor Hugo. Les misérables sont au purgatoire et les Thénardier au pied du pouvoir. C'est la destinée des normalisés, lobotomisés et rasés de frais, tant de barbarie, tant de l'infamie où l'on ne sait plus. Qui meurt ou qui vit, Louise l'insurgé d'aura le Valois, quand la nuit décline son identité, c'est le rendez-vous des sans-voix miroirs qu'est coché le verbe. Fait tourner sous un chapiteau des monstres sans nez, des Quasimodo, des bourgeois bien mis, sa pousse du col, femmes et enfants pissent sur le sol, c'est la bonhomie des bien éduqués, des nouveaux friqués, des quartiers huppés, jour de saleté, jour de dégueulis, où l'on ne sait plus qui meurt ou qui vit. Louise l'insurgé d'aura le Valois, quand la nuit décline son identité, c'est le rendez-vous des sans foi ni loi qu'est coché le verbe aimer. On a présenté au marché Drouot tableaux et dessins du douanier Rousseau. Des spéculateurs se sont étripés, ils avaient des pouvoirs signés des banquiers. C'est la nostalgie qui fait le trottoir pour un maquereau habillé de noir, nuit prostituée, nuit des jours salis, où l'on ne sait plus qui meurt ou qui vit. Louise je l'assure, j'aidera le Valois quand la nuit décline son identité. C'est le rendez-vous des sans foi ni loi qu'est coché. Le verbe aimé. Je suis le vieux père, la purge, pharmacien de l'humanité. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Les monstres sont parmi nous, curés, rabbins, muftis et autres couillons. On les mettra tous au trou, après leur avoir éclaté le croupion. On jettera Dieu à l'égout, faut en finir avec les religions. Alors sur les décombres des temples, on se fera éclater les tempes. Et rire au nez de la grande faucheuse, qu'est vraiment une sale gueuse. Et rire au nez de la grande faucheuse, qu'est vraiment une sale gueuse. Je suis le vieux père la purge, pharmacien de l'humanité. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Les monstres sont parmi nous, boursiers, rupins, bourgeois et autres patrons. On en fera du ragoût après l'avoir piqué le pognon. Faut en finir avec le capital et brûler tous les billets. Reviendra le temps des cigales et dans tous les estaminets. On boira la santé des rebelles, Rabachol, Macno, Louise, Michel. On boira la santé des rebelles, Rabachol, Macno, Louise, Michel. Je suis le vieux père, la purge, pharmacien de l'humanité. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Les monstres sont parmi nous, flics, militaires et gendarmes. On les flanquera à genoux et l'on brisera leurs armes. Faut licencier toutes les armées pour en finir avec les larmes. En toute saison on aura l'été, reviendra le temps des cerises et plus jamais celui des crises. On réapprendra le mot aimé et plus jamais celui des crises. On réapprendra le mot aimé. Je suis le vieux père la purge, magicien de l'humanité. Je vais me prendre une bonne murge et me saouler à votre santé. Je vais me prendre une bonne murge et me saouler à votre santé. Je vais me prendre une bonne murge.
Radio Libertaire, Radio Libertaire avec deux chansons enragées, sans modération. Donc c'est un album, comme ils disent. C'est un album, alors c'est un disque qui vient de sortir et qui, deux chansons on vient d'entendre, on en écoutera hein, peut-être au fil des émissions. C'est un album, il y a 18 titres, et donc on vient d'entendre le premier texte, Louise, hein, et puis le Père la Purge. Alors ça fait du bien quand même, hein, deux chansons enragées. Hein, alors texte, cet album s'appelle Sans Modération. Ingrid Naour et Pierre Drachline, s'ils sont à l'antenne, eh bien, salut et bravo, puisque c'était une chorale, donc aussi des chansons, ces chansons enragées, on l'avait pu les entendre, semble, au mois de juin 2014, du côté de Montreuil, chez Armand Gatti, à la maison de l'Arbre. Hein. Alors, texte, je vous le rappelle, Ingrid Naour et Pierre Drachline, et puis au chant Badia, Denis Robert, et ben c'est pas celui que l'on connaît, hein, si vous connaissez Denis Robert, mais là, c'est le même nom, hein, le même orthographe et tout, chant et accordéon, GG à la contrebasse et Alain Brûle au saxophone. Alors Père Lapurge, ouais, que ça fait du bien, hein, parce que là on entend, oh là 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 là, c'est terrible, hein, c'est le retour du refoulé. Alors plus que jamais, alors évidemment, on entend à longueur d'antenne. Enfin, il faut couper tout ça, mais donc cette oppression de cette société sécuritaire, alors donc l'ode aux militaires, enfin un auditeur me rappelait tout à l'heure, il me disait que pour ce qui concerne les militaires, la religion, par rapport aux engagés, appelés, enfin engagés, puisqu'il n'y a plus d'appel, hein, l'appel défense, là, l'appel défense. Eh bien, la religion majoritaire, hein, dans les armées françaises, c'est la religion musulmane. Et on le sait, parce que pour le recrutement, ben on demande évidemment à la chair à canon. On lui demande quelle est ta religion, parce que si tu te fais bousiller, c'est quand même le but, hein. C'est quand même au bout du bout, ce qui va se passer. Eh bien, pour les obsèques, comment on fera, hein? Quel rituel on pourra? Donc, c'est pour ça qu'un petit coup de Père Lapurge, ça a nettoyé un peu tout ça. Parce que vraiment, c'est étouffant, hein, quand même, société française qui est à droite, à extrême droite, qui a glissé avec toutes ses valeurs, hein, je veux dire, toutes ces valeurs de voleurs, hein, ces valeurs autoritaires, enfin, si on peut appeler ça des valeurs comme jamais. Alors j'avais envie de vous parler, j'ai commencé tout à l'heure vous parler de poésie, hein, on en a bien besoin, hein, pour tenir le coup. Donc là c'était Pierre Rabhi, que certains connaissent, à partir d'un ouvrage. Alors le bouquin, je vous le dis, Nos voix d'espérance, entretien avec Dominique Méda et Eric Orsena, ça c'est moins bien. Alors Pierre Rabhi, bon, pour ça en tout cas... J'ai dit c'est moins bien. Et pour les questionneurs, enfin Dominique Méda, à vous de savoir qui c'est, dont les réflexions sur le travail, enfin tout ça, mais dans le cadre, et puis Monsieur Eric Orsena aussi à l'Académie française, enfin tout ça c'est dans le cadre de nos institutions. Et en tout cas, Pierre Rabhi a peut-être raison, hein, d'essayer de discuter avec beaucoup de gens, ou tout du moins d'écrire des choses un petit peu différentes. Donc comme celle-là. Alors pour situer un petit peu comment la vision du monde, comme certains parlent, comment certains le voient, il nous dit Pierre Rabhi, donc qui est en Ardèche, hein, il a 76 ans et il a essayé donc de monter sa ferme là-bas dans un endroit impossible. On lui disait comment tu vas pouvoir y arriver, donc avec sa compagne. Enfin il y a des enfants, il y a des gens qui l'ont aidé et il disait que quand il avait fait ça il y a 30-40 ans, il y a assez longtemps, peu de gens avaient compris notre choix d'aller nous installer donc en Ardèche, dans un coin perdu, comme on dit toujours, perdu, c'est pas la ville qui est perdue. Nous étions pauvres comme Job, hein, pour reprendre, comme Job, comme boulot, hein. Qu'est-ce que t'as comme Job? Ben, il était pauvre, là, il en avait pas. Mais heureusement pour nous, nous avions une petite forêt. Un jour, je rencontre un type dans un bistrot du coin et nous décidons de nous aider mutuellement à couper du bois. C'est ainsi que nous nous retrouvons après des heures de travail harassant devant un magnifique coucher de soleil flamboyant et un arbre dénudé qui se découpe sur l'horizon. En extase devant ce panorama extraordinaire, je me tourne vers mon compagnon pour lui faire partager mon enthousiasme. Et lui me répond « Ah oui, il y a au moins 10 terres à couper !» Voilà. comment on peut voir la nature. Hein. Alors, on peut voir la nature, c'est vrai que la mère de Nité voit la nature comme, et pas comme je vous parlais tout à l'heure des Indiens hachoirs, comme une réserve hein, qui s'épuise, évidemment, comme des ressources. Hein. Il faut puiser, il faut prendre, il faut tout exploiter, il faut prendre tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a, et aller chercher le plus loin possible, puisqu'on voit les désastres dans les recherches, vous savez, des hydrocarbures. Hein, de plus en plus, ils sont en train de massacrer l'Arctique. Enfin, ils vont continuer de toute façon, puisque les sociétés sont des sociétés autoritaires, malgré ce qu'ils vous font croire, et bloquées totalement avec pour... alors, on ne sait jamais, comme on dit, hein, il peut y avoir d'un seul coup une insurrection, l'insurrection qui vient, comme nous disaient nos amis de Tarnac. Mais en tout cas... Voilà le désastre de nos sociétés. Je vous parlais tout à l'heure de l'échec absolu des entreprises. Comment quelqu'un qui peut être un petit peu, avoir un petit peu de poésie, un petit peu d'intelligence quand même, hein, de s'engager, engagez-vous hein, dans le MERDEF. Silencieux, on l'entend pas beaucoup. Allez voir ce film des 15 zozos là du MERDEF avec le goût que ça vous donnera d'aller bosser. Ben on dira bah oui, mais il faut bien faire quelque chose, il faut bien avoir un bon emploi, hein, un bon emploi, il faut bien être un bon larbin, il faut bien être un bon esclave, hein, il faut et comment on fera sans ça si on n'aura plus de l'avion, hein, on n'aura plus de Charlie de Gaulle, hein, vous rendez compte, hein, tous ces ingénieurs ingénieux, et puis nos centrales nucléaires, hein, qui sont prêtes là, qui ont rempilé pour 60 ans, et ben vous rendez compte, on va en avoir de nouvelles, et puis les nouvelles, hein, avec Atomic Royal, et bien la nouveauté, ça va être peut-être un petit peu comme du Super Phénix. On va nous refaire, après le coup de l'uranium, on va reprendre une autre substance encore plus dangereuse, hein, vous le savez, pour essayer de refaire ce qui avait été un échec cuisant. Souvenons-nous, c'était Crémalville, hein, la manifestation en 1977 déjà, où l'État avait montré, hein, comme avec Rémi Fraisse, Vital Michalon, avait montré sa gueule, hein, sa gueule d'assassin, en bousillant Vital Michalon. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'apprend pas aux petits enfants dans l'école de la République, hein, aux professeurs, évidemment, qui n'en sont jamais sortis, aux instituteurs, et qui ne, peut-être, enfin, à part, ils auront un Charlie dans la main, comme on dit, ils sont tous Charlie, et après, ça sera pas la peine de leur essayer de leur donner d'autres revues, d'autres magazines, d'autres journaux. Ils diront, j'en ai déjà un, hein, j'ai le Charlie, c'est pas la peine. Alors voilà ce que disait Pierre Rabhi, entre autres, la belle société dans laquelle vous êtes, hein, l'itinéraire d'un individu dans la merdonité urbaine, de la maternelle au lycée, hein, ça va changer évidemment avec la laïcité qu'on va enseigner à la maternelle, qu'on appelle le bahut, hein, on appelle le bahut, vous savez, donc le lycée, le collège, le bahut, de logements souvent exigus aux boîtes dans lesquelles on travaille, les entreprises, dans ma boîte, c'est ma boîte, hein, sans oublier les boîtes où l'on s'amuse et où l'on va en caisse, hein. Donc on est en attendant le cercueil. Et alors, petite boîte, hein, de notre ami Grim Allwright, hein, petite boîte, hein, chanson merveilleuse. Et ben ça fait longtemps qu'elle a été écrite, mais ça change pas. Hein, on ne veut pas écouter. Je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire. Hein, je viens de vous le dire, Pierre Rabhi, avec son compagnon, hein, qui lui disait, il y a au moins 10 terres dans cet arbre-là. Hein? Alors comment faire, hein, pour changer l'optique 2000 de nos chères têtes blondes, de nos petits enfants ou de l'ensemble de la population, les plus vieux qui ont été intoxiqués, formatés évidemment par la merdonité, par toutes ces images plus dégueulasses les unes que les autres, évidemment, comme des entonnoirs, on leur fout dans la gueule, on leur fout ça dans la tête, et donc après, qu'est-ce qu'ils peuvent voir, hein? Ils peuvent pas voir une caisse, mais une belle bagnole, hein? Ils peuvent pas voir une boîte, hein, dans laquelle ils bossent, mais ils disent, je suis fier de mon entreprise. Ils ne peuvent pas voir aussi quand un bel appartement qu'on va leur fourguer, comme en région parisienne, des hommes, on pourra pas, hein, puisqu'ils seront obligés de prendre un crédit jusqu'à la mort, 40 ans de crédit, pour avoir évidemment engraissé les Bouygues, hein, tout le BTP plus pourri les uns que les autres, à nous faire justement ces casernes, ces clapiers de luxe en apparence, hein, en apparence évidemment la vie en clapier, dans laquelle on essaie de foutre l'ensemble des populations des villes, et comme je vous dis, ça va continuer, puisque le projet est de foutre 80% des gens, et comme nous sommes, nous, pour l'horizontalité, eh bien, on va développer de plus en plus la verticalité, hein, comme au Qatar, montrer ça, comment empiler, et tout ça, ça fait d'excellents Qataris, hein, évidemment, qui marchent au pas, et avec la religion pour nous distraire, avec la religion pour nous assommer un peu plus et puis nous faire accepter. Je pense que c'est la hauteur justement des tours, hein, puisque plus près de toi, mon Dieu, hein, de monter le plus haut possible. Alors, là, simplement, Pierre Rabhi évoque le fait des bricoleurs, puisqu'il se dit lui-même colleur de bris, bricoleur de la périphérie, et il dit essayer d'autres possibles pour demain, comme enseigner autrement, construire des maisons ou construire des lieux autrement, utiliser de l'énergie autrement, hein, que le nucléaire, se nourrir autrement, alors faire tout autrement et développer une idée qui est très importante, c'est-à-dire un rapport esthétique et un rapport éthique, esthétique et éthique au monde. Alors, il rejoint en cela, c'est ce que je vous disais, les Indiens Achoir, hein, le livre j'aurai pas le temps, mais c'est comme ça, de Philippe Descola, et la composition des mondes et par-delà la nature et la culture, justement, je vous le rappelais tout à l'heure, hein, vivre autrement, c'est-à-dire habitat dispersé, plus que dispersé, pas de village, pas de chef, pas d'état, pas de spécialiste de rituel, hein, c'est ce qu'il nous dit, donc de multiplier d'autres rapports, évidemment entre humains et non humains, hein, puisque il nous dit que les poissons, les arbres, la nature ont aussi des droits. Hein. On a du mal à se mettre ça dans la tête, hein, puisque, vous le savez quand même, aussi les idées marxisantes, les idées aussi religieuses, hein, eh bien, c'était quand même d'utiliser la nature, hein, d'être prendre toutes les religions, et puis les nouvelles, et puis aussi une forme d'exploitation de la nature, hein, pour prendre comme on en a envie pour chacun d'entre nous. Ça, vous le savez aussi, avec les limites que ça a pu avoir. Alors, c'était intéressant, mais j'aurais pas le temps. Philippe Descola, donc, il s'est rendu compte un peu de son impasse quand il était jeune par rapport à l'extrême gauche, qui laissait de côté ces questions écologiques qu'il trouvait secondaires à l'époque, voire réactionnaires, hein, sous l'uniforme tu restes un travailleur, et donc laisser de côté, au moins, et donc de rappeler que tout ça, eh bien, ce naturel nous revient dans la tête, et évidemment, il nous le dit, la difficulté, c'est de faire sa révolution personnelle, sa révolution intérieure, pour essayer de voir les choses autrement. Et c'est vrai que pour ça, eh bien, il faut aller peut-être dans ses ouvrages, hein, pour pouvoir découvrir véritablement autre chose. Comme on nous dit que les humains qui produisent ces normes, et que ces normes, elles ne pourraient nous être aussi proposées par des écosystèmes, changer absolument tous ces rapports, évidemment, à la nature, et la voir autrement, ce rapport avec les arbres, je vous le disais tout à l'heure, ce rapport avec les animaux, ce rapport avec la terre, ce rapport avec les fleuves, avec les océans, et certainement, évidemment, quand on est urbanisé, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit plus rien, on voit des boîtes, hein, on voit des caisses, on voit tout ça, et on a le cerveau complètement emboîté, hein, et donc, qui boite, hein, le cerveau qui boite après, et donc, c'est ce que nous dit, donc, je vous le rappelle à partir de cet ouvrage La composition des mondes de Philippe Descola, hein, reconceptualiser le social et le politique est indispensable actuellement. Ben voilà, on n'en prend pas le chemin, hein, ils sont pas. C'est un projet dans lequel il souhaite s'engager et avec d'autres, évidemment, lui cède ce gros travail, il dit nécessaire aussi de sur soi-même, hein, à sa façon de composer le monde, hein, et sa façon de composer sa propre vie. Alors donc, je vous encourage à aller découvrir ses ouvrages qui sont complètement, évidemment, dehors de toutes ces salades, hein, de toute cette bouillie qui nous déverse sur la tête, hein, avec cette merdonnité, hein, et avec, justement, des aspects, comme je dis, de caricature, c'est bien, hein, par rapport à des éléments, de les refaire, mais ouvrir les fenêtres, si l'on peut, et aller voir justement que cela est possible, puisque certains disent, ben non, c'est pas possible, on peut pas vivre autrement. Et puis la guerre, ça a toujours existé, ben c'est faux, c'est pareil, il y a 6000 ans, il n'y avait pas, hein, la même chose, donc c'est un échec absolu, nos sociétés qui vont évoluer, évidemment, et qui risquent d'évoluer vers les conflits, de plus en plus, hein, par rapport à ce que l'on peut développer le système capitaliste, hein, de la guerre de tous contre tous, évidemment, à coquiner avec les religions, même si on fait semblant de vouloir les mettre un petit peu de côté. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, et ben je vais justement, vous savez que à partir de 11h, nous recevons Marie-Claire Calmus pour ses chroniques de la Flèche d'Or. Voilà. Je vous rappelle le numéro du studio, 01 43 71 89 40.